Je suis en train d'inviter Papa Muyonga. On acclame pour l'encourager. J'aimerais te demander de te mettre debout. Chers frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire, quand on parle de Jésus-Christ ou de la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire. Nous ne sommes pas là que pour passer du temps parce que c'est un dimanche. La parole d'aujourd'hui peut changer ta vie. La parole d'aujourd'hui peut te ramener encore dans une situation où tu vas te sentir encore plus fort que tu ne l'as été. Mais ça dépend de la raison pour laquelle tu es là. J'aimerais que tu sois focalisé encore sur ce Jésus. J'aimerais que tu sois focalisé encore sur Dieu, sa grandeur, sa puissance. Et ceci est une opportunité pour toi d'écouter encore quelque chose de surplus qui va te permettre encore de passer toute la semaine. Alors j'aimerais te demander de prier pour toi et de demander à Dieu que ton cœur soit une terre fertile sur laquelle cette graine va devoir fleurir, va devoir prendre racine. Parce que si notre pays est en train de tomber comme ça en cascade, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont entendu, mais qui n'ont pas donné place à cette graine. Et Papa Muyonga va prier pour la parole.
Fais Père éternel que ta parole soit réellement douce, comme cela a été pour ceux qui l'avaient goûté. Ils ont remarqué que le douce est au palais. Et pour cela, ils avaient besoin de l'en prendre chaque jour, chaque instant. Apporte la douceur dans ta parole. Mais aide-nous aussi, lorsque elle devient amère, que nous puissions la prendre parce qu'elle convient pour notre santé. Lorsque nous la vivons au milieu de ton peuple, gloire à ton nom, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen, mettons-nous. Je vous invite à ce shawarma de cet après-midi. C'est un shawarma qui a trois éléments. Le premier élément est à Genèse chapitre 3. Le deuxième élément est à Luc chapitre 2. Et le troisième élément, on va le trouver dans Hébreux, le chapitre 2. Alors, goûtons la première partie du shawarma. Genèse 3, 14 à 19. Il y avait même Esaïe. C'est moi qui ne vais pas lire les livres d'Esaïe. Mais les jeunes ont vraiment voulu que nous puissions lire beaucoup de livres. Genèse chapitre 3, 14 et 19. L'Éternel dit, on ne sert pas. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dormira sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des rosses et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur, Luc chapitre 2. Je lis le verset 8 jusqu'à 18. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Un soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et y trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Et alors Hébreu. Hébreu chapitre 2, verset 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent en sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, en sûrement, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ça, c'est un verset important. En conséquence, il a dû être rendu semblable à tous, à toutes choses, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est ça la parole du Seigneur cet après-midi. Et le leadership, la jeunesse, voudrait qu'on parle de Christ. Christ a pris la chair pour que la victoire sur le mal soit une réalité. Christ a pris la chair pour que la victoire sur le mal a beaucoup d'éléments, pour que la victoire sur le mal soit une réalité. Et donc ce sujet nous appelle à un terme difficile qu'on appelle l'incarnation. Prendre la chair. L'incarnation. On en parle chaque jour dans notre credo. Qu'il est né, il a pris la chair. Il est né de la Vierge Marie. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, on ne rencontre pas clairement ce terme difficile qu'on appelle l'incarnation. Mais on les lit sous plusieurs formes dans différents textes de la Bible. Quand vous lisez Jean, chapitre 1er, la parole nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a vécu au milieu de nous. » La parole ne peut pas vivre au milieu des gens. C'est que la parole, Jésus-Christ, a pris la chair. Nous pouvons aussi lire en 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, qu'il s'est manifesté dans la chair au milieu de nous. Et en Jean, quand vous lisez 1 Jean chapitre 4 verset 2 et 2 Jean verset 7, la Bible nous dit que celui-là qui ne reconnaît pas que Jésus a été au milieu de nous, dans la chair, celui-là s'appelle Antichrist. Donc il faut reconnaître que Jésus-Christ, quand il a été au milieu de nous, il était dans la chair. Le Fils de l'homme, homme 100% et Dieu 100%. Et quand nous lisons en Romains, il nous disons que Christ a condamné le péché dans la chair. Il était dans la chair. Et alors, lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, 22, la parole de Dieu nous dit que de même que tous les hommes meurent du fait de leur union à Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union en Christ. Donc, Christ, prendre la chair, est un élément très important dans l'évangile que nous annonçons. Si Christ n'avait pas pris la chair, il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas arriver dans notre vie. Et donc, Dieu a décidé que Christ prenne la chair, soit au milieu de nous. Là, alors, on est à Hébreu. La chair et le sang. Qu'il se présente au milieu de nous. Qu'il nous libère. Qu'il se présente comme un guerrier. Qui nous tire de la main de l'oppresseur et que alors nous soyons libres. Il a donc réalisé une grande mission. Mais lorsque nous avons lu Genèse, nous étions dans une situation lamentable. Vous avez vu ce qu'on a dit par rapport à l'homme, Adam, et à la femme, qui nous a amenés dans une situation lamentable de mésentente entre nous. Et donc, lorsque Christ est né, nous étions dans une situation lamentable où on ne peut pas s'approcher. On était dans le mal, on était opprimé, on avait peur de la mort. On était déjà mort parce que nous étions séparés de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Luc, le chapitre 2, vous pouvez comprendre comment cette grande œuvre n'est pas connue par les humains. Cette grande œuvre est connue au ciel, mais pas sur la terre. Jésus est né la nuit. Suivez bien à Luc. Jésus est né la nuit en privé. Les hommes dans la situation que nous avons lu à Genèse ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, la nuit, à minuit, ils dormaient. Nous avons la liberté d'interpréter les sommeils comme nous le voulons. Celui qui dort à minuit, c'est parce que nous n'avons pas l'occasion de vous voir comment vous dormez à minuit. Mais vous pouvez vous imaginer à minuit, vous avez quelle position, vous avez quelle situation au lit. À ce moment-là, Jésus est né. Les humains ne comprennent rien. D'ailleurs, aux Juifs, on ne pouvait pas dire que Dieu est devenu homme. Ça signifiait que Dieu a pris la chair. C'est-à-dire, Dieu est devenu comme sa créature. C'est donc une situation qu'un être humain qui dort dans le péché ne peut pas comprendre. Seulement les anges peuvent comprendre. Seulement les anges peuvent comprendre. Et donc, le message de la naissance de Jésus-Christ n'est pas annoncé premièrement par les hommes. C'est annoncé par l'ange. C'est ce que nous avons lu. Parce que l'homme ne connaît rien, ne comprend rien. C'est un message qui vient du ciel. C'est un plan qui vient du ciel. C'est un plan fabriqué au ciel et non pas par les hommes.
Dieu va prendre la chair. Bon, nous pouvons bien expliquer, mais nous n'allons pas comprendre. Et nous n'allons pas comprendre jusqu'au jour où nous allons le rencontrer, que Jésus va prendre la chair. Alors, nous allons parler de 3 à 4 éléments qui nous aident à voir comment cela est arrivé lorsque Jésus prend la chair. Ce message est annoncé à qui? Et qui annonce le message? Et ça s'annonce comment? Et comment nous pouvons nous joindre à ce message que Christ a pris la chair afin d'avoir la victoire sur tout le mal de la terre que nous vivons? Prenons le premier élément. Le message est annoncé à qui? Au roi? Non. Au prêtre? Non. Aux hommes forts? Non. Aux bergers? Le message arrive lorsque le monde est subdivisé à plusieurs catégories. Il y a le plus important, le moins important, les négligés. C'est ça le péché. C'est ça le mal du péché. C'est ce que fait le péché. Et d'ailleurs, même maintenant, c'est ce que nous vivons. Dans cette situation, Dieu décide que le message soit annoncé aux opprimés. Et ce sont les bergers. Les bergers étaient une catégorie de gens qui sont bon, opprimés. Bon, les bergers ont des comportements bizarres du péché. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas mon père, mais le pasteur connaît mon père. Il me raconte ceci quand ils étaient bergers. Vous savez que quand dans nos villages, on mettait quelque chose dans un champ. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Moi, je connais ça dans ma langue maternelle. Le maereko. L'épouvantail. Ah, ça, c'est le français que je ne connaissais pas. Voici ce que mon père raconte. Il est âgé, il a 81 ans. Il dit, quand j'étais tout petit, nous étions des bergers. Et quand on arrive dans un champ de canne à sucre, on y trouvait l'épouvantail, selon les termes du pasteur. Il dit alors, on dit, bon, si nous volons, le malheur sera sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une chèvre, on l'attache sur une canne à sucre, et on frappe la chèvre. Et la chèvre casse la canne à sucre, et on suit la chèvre. On dit, bon, le malheur va tomber sur la chèvre. Ce sont là les bergers. Si vous demandez aux bergers, ils vont vous raconter n'importe quoi. Donc, le berger ici représente le peuple à des niveaux, des pécheurs tout fait. Écoutez le berger. Deuxième histoire. Quand nous passons dans les champs des pommes de terre, il dit, nous avions des couteaux, des très longs couteaux. Il dit alors, et il y avait chez nous au village une femme qui enchiriait sérieusement. Alors il me dit, alors on prend les couteaux, quand on passe avec les chèvres dans le champ de pommes de terre, vous lancez les couteaux, quand vous les retirez, ça revient avec la pomme de terre. C'est ça le berger. Si vous écoutez le berger, il raconte des histoires qui montrent qu'effectivement ils sont des pécheurs. C'est à ces gens-là que le message est annoncé. Le premier. Ce berger nous représente. Nous représente parce qu'ils sont dans le mal. Et il faut qu'ils soient tirés du mal dans lequel ils se retrouvent. Ils sont opprimés, ils sont de la catégorie la plus négligée. Mais aussi, les bergers nous permettent de comprendre qu'il n'y a pas une situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, une situation qui va empêcher Dieu de vous rencontrer. Hein? Il n'y a pas. Il n'y a pas une situation dans laquelle vous traversez et vous allez dire, je crois que Mungu hawezi fika hapa. Il ne serait pas arrivé là où se trouvent les bergers. Je vais vous dire plusieurs catégories des gens que Dieu a appelés lorsqu'ils sont dans la situation comme celle-ci. Alors écoutez, Moïse, lorsqu'il a été appelé, il faisait quoi? Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, Jethro. C'est là que Dieu l'a trouvé, l'a appelé dans une flamme, dans un buisson. Il était berger. Gédéon, quand on l'a appelé, il était où? En juge. Il était caché. Il avait peur des Madianites. Il était en train de faire son champ, de préparer le blé, afin de le cacher contre les oppresseurs qu'on appelait les Madianites. C'est là que Dieu l'a appelé. Élisée le grand prophète a été appelé. Il était où? La Bible dit que il était en train de labourer. Il était au champ. Il y a parmi nous des gens qui n'ont jamais été au champ. Parce que c'était un travail que parfois certains négligent. Élisée était au champ. Peut-être pieds nus, peut-être à bottines, peut-être comment. Quand on est au champ, on n'y va pas avec des habits comme ceux que je porte ici. Ne pensez pas que quand Dieu va nous appeler, il va nous appeler quand nous avons la cravate et que nous sommes à une bonne tenue. On a appelé Élisée au champ. Il était en train de labourer. Donc, Dieu, quand il nous appelle, il appelle David. Il était où? Il était au milieu des chèvres et des moutons. C'est là qu'on vient appeler d'urgence David pour dire, viens, on veut te rendre roi. Et donc, même si le message du Christ nous trouve dans une situation malheureuse, il n'y a aucune situation que vous pouvez traverser là où ce message ne peut pas vous trouver. Là où Dieu ne peut pas vous trouver pour vous appeler à faire un travail spécial. Je sais que vous pouvez ne pas avoir partagé ce que vous êtes en train de traverser, mais sachez que là, le Seigneur peut vous appeler pour devenir comme Moïse, pour devenir comme Élisée, pour devenir comme Gédéon, pour devenir comme David. Parce que parfois, ce que vous traversez, c'est un mal qui est lié à la situation de péché que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui. Voilà le premier message. Il n'y a nulle part. Le Seigneur est à mesure d'anéantir ce que vous traversez, même si vous êtes dans un coin reculé. Alors, à quoi ça, c'est une bonne nouvelle? Oui, que Christ a pris la chair afin d'avoir la victoire sur le mal, cela est une réalité. À quoi cela est une bonne nouvelle? Encore une fois, vous remarquez que cette bonne nouvelle, il n'y a que l'ange qui le sait. Et non pas les humains. D'ailleurs, les humains devraient discuter. Oui, bon, ils sont en sommeil. Un sommeil de péché. Mais à quoi cela est une bonne nouvelle? Les anges seulement savent que la gloire et l'honneur perdus. Quand nous avons lu le texte de Genèse, par Adam et Ève, sera restauré. Pour ça, c'est une bonne nouvelle. Aux humains qui dorment, pas aux anges. Vous avez vu dans Hébreux, il a dit, bon, normalement, il n'est pas venu pour les anges. Mais il est béni pour la postérité d'Abraham. Mais ce sont les anges qui savent que ce que les hommes ont perdu, la gloire qu'ils ont perdue dans le jardin, le moment est arrivé. Christ a pris la chair. Cette gloire-là sera restaurée. Jusqu'à présent, il y en a des gens qui n'ont jamais compris ça. Mais les anges, déjà, ils comprenaient cela. Jésus va mettre toutes choses sous son pouvoir, ce bébé-là qui est dans une mangeoire, les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Seulement l'ange peut comprendre. Les grandes ténèbres qui nous rendaient aveugles vont disparaître parce que la lumière vient d'arriver. Seulement les anges peuvent connaître ça. Le pardon arrive pour tous. Seulement les anges peuvent savoir ça. Jusqu'à 2024, il y a des hommes qui discutent. La liberté sera bientôt déclarée. pour tous les captifs dans la prison de Satan. Seulement les anges sont informés et les humains sont en profond sommeil. La tête du malin de Satan va bientôt être écrasée. C'est une bonne nouvelle. Les anges savent, mais les humains sont en plein sommeil. La vérité sera bientôt connue. Que Satan est un menteur. Les anges savent, mais les hommes sont en profond sommeil. Pourquoi ne pas chanter? Oui, mais est-ce qu'il faut perdre le temps pour recruter les hommes à venir dans la chorale? Non. Il faut seulement que les anges chantent, parce que ce sont eux qui comprennent ce qui vient d'arriver. Mais les humains, un grand débat va continuer pendant 33 ans. Et ils ne comprennent pas que Christ a pris le corps pour une grande victoire, anéantir tout le mal qui sévit dans ce monde. Et alors, les anges chantent la victoire. Les anges chantent la victoire. Vous connaissez ce bouquet qu'on appelle « Chant de victoire ». Les anges avaient chanté ça depuis longtemps. Parce qu'ils ont compris ce qui vient d'arriver. Ce que l'être humain ne peut pas comprendre. Les chants de victoire du salut ne se chantent pas par des pécheurs. Ça se chante par des saints, les anges. C'est pourquoi il est difficile de chanter lorsqu'on est pécheur. Oui, quand vous lisez le psaume 137, vous trouvez une aventure que le peuple d'Israël raconte pour dire « Lorsque nous sommes allés comme des réfugiés, des exilés à Babylone, nous étions là, assis. On avait nos instruments de musique. » C'est ce qui se raconte. Si vous lisez 137, on avait des instruments de musique. Alors il continue de dire « Mais comment chanter? Comment chanter ?» Pour Jérusalem, lorsque nous sommes à Babylone, vous savez que quand on prend les gens captifs, qu'est-ce qu'on dit? Bon, vous êtes ici, chantez votre hymne national. Alors que vous êtes captifs, alors vous chantez debout, congolais, narozi konaluma, parce que vous êtes captifs. Et c'est ça, lorsque tu chantes, alors que tu es captif du péché, en fait, Satan se joue de toi. Il dit, bon, toi tu dis que tu es chrétien. Bon, est-ce que tu peux chanter « Il m'a sauvé, il m'a sauvé ». Alors, il chante, tu chantes « Il m'a sauvé » et Satan se tourne à rire. « Il m'a sauvé ». C'est ce qui arrive lorsque vous chantez en captivité. Alors, ce cantique de victoire ne peut pas se chanter par des pécheurs. Les anges ont refusé d'associer les pécheurs qui sont dans une situation lamentable, il fallait chanter ça quand ils dorment. Parce qu'il y a un bakouwimbo takatif. Et donc, c'est chanté par les anges qui n'ont pas besoin du salut. Ça serait chanté par la postérité de David qui a besoin du salut. Mais ça se chante par des personnes qui comprennent qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Parce que un miracle vient de se réaliser. Le Christ a pris la chair. Il faut donc que lorsque nous chantons et qu'on nous appelle ici, on nous demande de chanter comme nous l'avons chanté, que vous puissiez chanter comme les anges, en comprenant pourquoi vous chantez, en comprenant cette grande victoire que Jésus a eue sur le malin. Le Satan nous rendait captifs et se jouait de nous comme il veut. Il a mis en mine une grande peur de la mort, alors que nous étions déjà morts. Et il nous a rendus ses esclaves. On n'avait pas droit de connaître la vérité. La vérité était cachée. Et donc nous pouvions vivre seulement conformément à ce que Satan nous demande de faire. Alors, Christ a pris le corps pour vivre avec nous, au milieu de nous, et d'une manière étonnante, écraser tous ces éléments qui nous font du mal. La parole de Dieu aujourd'hui nous demande de nous associer en saint pour chanter ce cantique de victoire, pour comprendre pourquoi Jésus est arrivé. Ce cantique a deux strophes. Je crois que vous avez suivi ces strophes dans le texte que nous avons lu à Luc. Première strophe, gloire à Dieu. Deuxième strophe, paix sur la terre. En fait, pourquoi on ne veut pas chanter gloire à Marie? Parce qu'il y a une joie des âles. Gloire à Joseph. Marina et Wabatu, il est entré dans un plan de Dieu. Les anges ne peuvent pas donner la gloire à Marie ou à Joseph. Ah non. Ils savent d'où est venu le plan. La gloire ne peut être donnée qu'à celui, l'initiateur du plan. Celui qui parle. Et la parole prend chair. C'est à lui qu'on peut donner gloire. Gloire pour réaliser cette mission. Gloire pour tout ce que Jésus va faire. Gloire pour tous les enseignements que les gens ont suivis. Gloire même pour la souffrance qu'il va traverser. Gloire pour sa résurrection. Gloire à Dieu. C'est ça la première strophe. Si vous voulez vous joindre aux anges, il faut vous rassurer que toute votre vie donne gloire à Dieu. Toutes vos paroles donnent gloire à Dieu. Parce que vous chantez un cantique de victoire. Nous ne sommes pas appelés à donner la gloire aux humains. Qui constitue en fait des instruments que Dieu utilise pour annoncer le message du salut. Mais les anges nous donnent le modèle. On chante gloire à Dieu. Deuxième strophe, paix sur la terre. Je ne sais pas comment les Congolais peuvent chanter ce cantique. Paix sur la terre. Honor Kivu, comment on peut chanter ça? Honor Kivu, s'il paraît que Dieu n'a pas, Jésus n'a pas encore fini le mal. Hein? Comment nous pouvons chanter paix sur la terre? Le problème de la paix, c'est qu'il y a deux catégories de paix. Il y a la vraie paix et la fausse paix. Les Anglais allaient appeler ça fake peace. Oui, et souvent, nous cherchons le fake, la fausse paix. La vraie paix, c'est celle-ci. Vous faites la paix avec Dieu et vous avez la paix. C'est ça la vraie paix. Ouais. Tant que les humains n'ont pas fait la paix avec Dieu, il n'y aura pas de vraie paix. Il y aura de fausses paix. Alors, ça signifie que lorsque l'être humain a fait la paix avec Christ, avec Dieu, alors c'est logique qu'il fera la paix avec les autres. C'est très logique. Ça signifie que la guerre que nous vivons, c'est clairement fait par des gens qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Ces gens-là ne nous amèneront pas la vraie paix. Vous vous rappelez du cantique que nous chantons, la paix dans la souffrance. C'est une autre paix. Ce n'est pas la paix sans la souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ces paroles. La paix dans la souffrance, je sais. Nous adhérons à la paix, même dans la souffrance. Ça signifie que c'est une autre paix que les anges sont en train d'annoncer ici. Nous faisons d'abord la paix avec Dieu. Et alors, les autres formes de paix pourront arriver. Et les anges était bien informé que la paix, la vraie paix, vient d'arriver parce que Christ a pris la chair. Quelqu'un nous a enseigné ici que lorsque Christ prend la chair, il commence déjà la souffrance. D'ailleurs, d'abord, vous pouvez vous imaginer vous-même, lorsque Dieu devient créature, lorsque Dieu ressemble à sa créature, c'est une souffrance, hein? Première souffrance. Lorsqu'il naît dans une étable, deuxième souffrance. Lorsqu'il est réfugié en Égypte, troisième souffrance. Et lorsqu'il revient vivre à Nazareth, quatrième souffrance. Et lorsqu'il fait sa mission à pied, il a fait devant un vieux en pied. Souffrance. Il a pris nos pirogues. Il n'a pas fabriqué son propre bateau VIP. Il a pris nos pirogues. Il a participé au deuil. Il a participé au deuil. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous les trouvez en train de pleurer, en train de s'étonner de ce qui se passe. Il a connu des injures. Il a été giflé. Les gens se sont permis de cracher sur lui. Il a été flagellé. Il a été percé. On l'a mis dans une tombe. Vous avez toujours suivi des gens qui disent, quand me rappelle, quand on va me mettre dans la tombe, Christ a été dans la tombe. Quelle souffrance est-ce qu'il n'a pas connue? Bon, peut-être les femmes vont dire, bon, il n'a pas allé à la maternité pour accoucher. Jésus a été affamé un jour. Plusieurs pas même un jour, plusieurs fois. Nous savons qu'il a été tenté, il était affamé. Et nous savons qu'un jour, il a maudit un arbre. Parce qu'il était affamé, il n'a pas trouvé à manger. Il ne pouvait pas connaître ses souffrances s'il n'aurait pas pris la chair. Il avait donc une stratégie. Prendre la chair, connaître tout ce que nous avons connu comme souffrance, les anéantir dans sa mort et sa résurrection et nous faire la victoire. Chantons le chant de victoire avec les anges et disons toujours avec les anges, parce que les anges, ce sont des grands adorateurs, des spécialistes en cantique et en adoration. C'est notre moment de faire la répétition avec nous. Nous qui sommes déjà devenus saints, vous n'allez pas être recruté dans la chorale des anges si vous êtes pécheur. Parce que là, on chante « Gloire à Dieu, paix sur la terre ». Et on chante comme des saints. Parce que nous avons vécu le miracle de Christ qui a pris la chair afin d'anéantir toute souffrance que nous traversons. Et nous pouvons être capables d'avoir la paix dans la souffrance. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen.